Décortiquer l'actu avec les grandes voix, Thierry, avec nous ce soir Alix Bouyaguet de France 2, Michel Taube, le fondateur du site Opinion International, et depuis Bruxelles, notre correspondante européen, Isabelle Horry.
Et bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Isabelle Horry, voilà. Il fallait quand même que vous soyez tous les trois ce soir parce que l'Europe, ce week-end, 4 jours, 3 nuits blanches, il fallait bien consacrer une demi-heure à cette Europe. Un accord est-il possible ce soir après 4 jours donc et 3 nuits blanches? Le plan de relance de l'Union européenne a du mal à passer. Emmanuel Macron s'exprimait à la mi-journée.
Ne pas aujourd'hui être au rendez-vous de l'esprit de compromis et de l'ambition, c'est prendre le risque de revenir dans des moments plus durs. Et pour certains qui sont soucieux de cela, qu'au final, cela nous coûte plus cher.
Voilà le président Macron. Un plan de relance moins ambitieux, moins élevé. Est-ce que ça coûterait plus cher à terme, Michel Taube?
Ah oui, beaucoup plus cher, et pas que financièrement, surtout politiquement.
Politiquement.
Là, l'Europe est au pied du mur.
Bien
alors
sûr.
Vous me direz, c'est pas la première fois dans l'histoire européenne, et l'histoire de l'Europe est faite de compromis arrachés souvent à la dernière minute. Mais enfin, je crois que nos chers chefs d'État et de gouvernement ont battu le record absolu.
C'est historique.
De durée, de report, de sursis. Enfin là, c'est un suspense qui est non seulement presque insoutenable, mais surtout quelque part, c'est déjà un échec. Parce que, et c'est un Européen convaincu qui vous parle.
Mmh.
C'est que de mettre autant de temps pour trouver un accord sur peut-être le seul sujet qui intéresse aujourd'hui tous nos concitoyens européens, c'est trouver les moyens financiers d'éviter.
J'entends Isabelle Horry qui me dit je ne suis pas d'accord du tout.
Tant mieux, on va en débattre. Mais non, franchement.
Je viens vers vous, Isabelle.
Mais la situation est vraiment difficile et je pense que si on sort ce soir. Sans accord historique ou sans compromis, le coût, comme pour répondre à votre question, va être terrible et il ne sera pas que financier.
Alix Bouyaguet, on en parlera bien sûr plus largement tout à l'heure, mais c'est aussi important ce qui se joue là pour Emmanuel Macron, pour Angela Merkel également et pour ce couple.
Oui.
Bien
sûr, et Emmanuel Macron en premier, puisque c'est lui le 18 mai qui met ce plan de relance européen sur la table.
Bien
Angela
sûr.
Merkel voit ce qui se passe dans son pays avec le Covid et finalement, pour la première fois, elle accepte finalement de tendre la main sur un dossier comme ça à la France. Moi, c'est vrai que je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec Michel Taube, parce que je pense que là, on va pinailler sur des dizaines de milliards d'euros,
ouais.
Mais c'est-à-dire que le principe de ces 750 milliards d'euros, et notamment sur cette partie de subventions, c'est-à-dire de dons, visiblement on était à 500, on serait peut-être aux alentours de 390 milliards, c'est quand même voilà, un cadeau à des États, et ils n'auront voilà, jamais l'occasion de le rembourser. Donc je pense que même si on n'arrive qu'à ça, c'est déjà un succès pour l'Europe, et peut-être le premier depuis des années.
Isabelle Horry, je viens vers vous. Vous me disiez tout à l'heure, on s'est parlé dans l'après-midi, vous me disiez, plus c'est long, plus c'est bon.
Alors, j'irai pas jusque-là, en tout cas, de mon point de vue
j'ai
personnel.
J'ai résumé un petit peu votre pensée.
Mais c'est vrai que
mais en
c'est
tout cas,
plutôt
ça veut dire qu'il y aura,
bon signe.
Il y aura un compromis ce soir, selon vous.
Bon. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que c'est le fait que ça dure aussi longtemps, c'est le signe que personne ne veut assumer la responsabilité d'un échec et que donc ils continuent d'essayer. Et que s'ils continuent, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent y arriver. Mmh. C'est un peu ce qu'on entend quand même, hein, les échos des dernières heures. Juste peut-être pour réagir à ce que disait Michel Taube. En fait, il y a toujours deux manières de voir ces négociations européennes. La première, c'est effectivement de se focaliser sur les péripéties. Et là, c'est vrai qu'on est en plein dedans et qu'on voit les portes qui claquent, on voit les tensions,
ouais.
On voit que c'est très difficile. Et puis à la fin, eh bien, il y a le résultat. Et finalement, l'histoire, qu'est-ce qu'elle retient? Juste le résultat. Et c'est vrai que s'ils arrivent à se mettre d'accord sur ce plan qui, pour la première fois, quand même, c'est un plan qui organise
historique,
un endettement commun.
Ouais.
Mais oui, on organise un endettement commun pour financer de la solidarité. Ça s'est jamais fait. C'est un pas. Alors certains disent c'est le moment, comme aux États-Unis où on est allé vers le fédéralisme. Alors, peut-être pas tomber dans le lyrisme, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un pas très très important. Et c'est pour ça aussi que ceux qui sont contre
résistent. Mais quel accord,
Isabelle ?
On pourrait tomber sur quel compromis ce soir ?
Alors, c'est ce que disait Alix Bouyaguet, on entend que le montant, c'est-à-dire le cœur du plan, hein, c'est vraiment ces subventions, c'est-à-dire ces aides directes qui vont aller aider les pays qui ont été le plus touchés,
ouais.
Ça pourrait passer de ce qui avait été, ce qu'auraient souhaité Paris et Berlin, c'est-à-dire 500 milliards,
ça, ouais,
on pourrait passer autour de 390,
c'est
400
ça.
Milliards.
En dessous de la barre des, d'accord.
Voilà, c'est moins, mais ça reste quand même très très important.
Ouais.
Faut se rappeler qu'au départ, les pays qui sont contre le plan, ils voulaient zéro.
Mais justement, les pays qui ne veulent pas ce plan, il faut rappeler, c'est le Pays-Bas, c'est l'Autriche, c'est le Danemark, c'est la Suède, ce qu'on appelle les frugaux. Eux ont été moins touchés par l'épidémie coronavirus. Ils n'ont pas à payer cette situation. Ce qu'ils disent finalement, c'est, on peut l'entendre, Michel Taube.
Oui, absolument. Moi, je pense que c'est toute la question de la solidarité européenne. À quoi elle sert l'Europe? Et c'est vrai qu'il se trouve que le coronavirus a surtout frappé des pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la France aussi beaucoup. Bon, certes, l'Angleterre aussi, mais l'Angleterre ne fait plus partie maintenant de l'Union européenne. Et c'est vrai que moi, je comprends aussi un peu les Italiens qui demandent la solidarité européenne. Donc, les Néerlandais, peut-être la raison principale pour laquelle les Néerlandais résistent et négocie dans les moindres détails, c'est justement parce qu'on passe peut-être à une nouvelle dimension de l'Union européenne, qui est pas encore fédéraliste, c'est pas du tout le terme, mais quand même, on va mettre en commun, dans un pot commun, une solidarité financière, et je pense que les Néerlandais veulent donner le signe aux Espagnols, aux Italiens, aux Français, bref, aux dépensiers, que ça peut se faire, mais pas sans une grande rigueur de gestion. Et que ce n'est pas un chèque en blanc que l'Europe signe à ses États membres. Donc voilà. Mais ceci dit, je pense quand même que l'enjeu est d'importance. Et bon.
Allez, on continue à en parler dans un court instant. L'Union européenne, un paquebot sans gouvernail, point d'interrogation. C'est notre discussion ce soir, 39-21, si vous voulez intervenir. A tout de suite.
Europe 1. Et si on boostait la reprise de son activité avec les solutions Pro d'Orange?
Moi, avec mon nouveau forfait performance Pro d'Orange, j'ai assez de gigas pour travailler de n'importe où, en France et en Europe.
Eh ben moi, avec Sélection Premium, j'ai un téléphone dernier cri et pas besoin de l'acheter. Je le loue.
Oh non, t'as deux plans comme ça, je cherche une loc pour les vacances.
Performance Pro, des solutions sur mesure pour booster la reprise de votre activité. Vous rapprochez de l'essentiel.
Orange.
Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orange.fr au 3901 ou 706. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Peugeot présente, édition spéciale, prime à la conversion.
L'actualité automobile du moment, c'est bien sûr la prime à la conversion gouvernementale exceptionnelle, pouvant aller jusqu'à 3000 euros. Dernière ligne droite pour en profiter et repartir au volant d'une Peugeot 9 cet été. L'occasion parfaite de se laisser séduire par la citadine ultra tendance Peugeot 108 à partir de 69 euros par mois avec 3 loyers offerts.
LLD 49 mois pour une 108 en stock jusqu'au 24 août. Premier loyer 3000 euros, ramené à zéro. Aide de l'État déduite, c'est accord crédit par. Détails sur Peugeot.fr.
40, le grand journal du soir. La suite sur Europe 1, on retrouve Thierry Dagiral et les grandes voix. On va continuer à parler de l'Union européenne avec, depuis Bruxelles, Isabelle Horry, notre correspondante, mais aussi ici en studio, Michel Taube, le fondateur du site Opinion Internationale, et Alix Bouyaguet de France 2.
Et oui, on a besoin de comprendre, ce soir, de poser les choses. Alix Bouyaguet de France 2, ce plan bénéficierait essentiellement aux pays du Sud, comme l'Italie, comme la France, finalement. On comprend la colère de ce qu'on appelle les fameux frugaux.
Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les gestes forts, ils sont en destination de plusieurs pays, l'Italie, l'Espagne et notamment la France. Mais ils peuvent aussi se dire qu'un jour, ça pourrait leur servir. Alors, dans les points de crispation, on a parlé tout à l'heure du montant des subventions, donc de ces fameux 500 milliards qui pourraient devenir 390
milliards.
Les frugaux se sont aussi attelés à une deuxième tâche qui est le contrôle de l'utilisation de ces subventions.
Exact.
Ces dons. Ils veulent absolument pouvoir voir la traçabilité de la manière dont on va être occuper ces sommes. Alors, là aussi, ils ont fait un petit pas, parce qu'au départ, ils étaient carrément sur le droit de veto, c'est-à-dire qu'on se met à 27, et puis là, on est reparti dans... pour étudier, vous imaginez chaque plan de relance de chaque pays à 27 avec l'unanimité. Donc là, ils sont en train visiblement de vaciller. Il pourrait y avoir à l'arrivée qu'un simple droit de regard, c'est-à-dire en clair soumettre la question aux 27 en disant regardez, ce plan de relance, il ne nous semble pas tout à fait bien, on valide ou pas, que ce soit quand même un protocole un peu plus simple. Mais c'est vrai que les frugaux se bataillent sec.
Et puis Isabelle Horry, il y a encore en mémoire quand même les réformes imposées à la Grèce, ce qu'on appelait la Troïka lors de la crise de la zone euro. Les Suds, ils n'en veulent pas, ils ont un mauvais souvenir de tout cela.
Voilà, c'est ça. Symboliquement, c'est très très compliqué à accepter pour eux. On entend souvent cette phrase, hein, on ne veut pas le retour de la Troïka, c'est-à-dire ces hauts fonctionnaires européens qui venaient vérifier si les réformes se passaient en Grèce. C'est intéressant parce que les pays frugaux, ils sont pas, enfin notamment les Néerlandais, ils sont pas très bons en communication parce qu'ils passent vraiment pour des radins, etc. Alors qu'il y a quand même de leur côté des bons arguments, et notamment cette idée de vérifier que les réformes sont bien faites dans les pays, c'est important. Je vous donne une petite anecdote. Quand Emmanuel Macron est allé à La Haye voir Mark Rutte pour le convaincre de participer hein, à ce grand plan. Marc Rutte lui a dit, ok, très bien ce plan, mais est-ce qu'on pourrait parler de ta réforme des retraites? T'en es où, au fait?
Ouais, d'accord. Ambiance, voilà. Ouais.
C'est ça pour eux, en fait. Bah, c'est qu'ils voient que ben, dans ces pays, les réformes, dans certains pays, le nôtre compris, eh ben, on parle de réformes, mais elles n'aboutissent pas forcément.
Michel Thaube.
Marc Rutte faisait certainement référence à cette une du Time. Emmanuel Macron, c'était en 2018.
Oui.
Macron, le nouvel grand européen, et il y avait un petit astérix en bas, s'il arrive à réformer la France. Et effectivement, on voit les difficultés qu'on a dans notre pays. Je pense qu'il y a un enjeu aussi, quand même, là on parle de conditions techniques d'application. Encore une fois, je pense que les Néerlandais ne veulent pas que l'argent soit distribué comme une gabegie.
Exact.
Ok pour mettre en commun la solidarité, mais il faut qu'elle soit bien employée, bien utilisée. Et encore une fois, c'est pas un chèque en blanc ou en bleu que va signer l'Europe à ces pays-là. Après, il y a des enjeux politiques majeurs aussi qui se jouent actuellement.
Bien évidemment.
Et notamment pour Angela Merkel. Parce que Angela Merkel et l'Allemagne faisaient plutôt partie de ces pays frugaux, entre guillemets. Et là, Angela Merkel avec Emmanuel Macron ont adopté une position plus médiane. Peut-être plus dépensière, notamment, je pense, parce que Angela Merkel est à la fin de sa carrière politique et que je pense qu'elle veut sortir aussi par le haut en montrant son attachement à une Europe plus puissante, plus forte. Et là, encore une fois, c'est aussi le couple franco-allemand qui là est en jeu.
Ouais.
Sa capacité à jouer le rôle de leadership en Europe et qui n'est pas gagnée parce qu'on voit de plus en plus quand même que le couple franco-allemand, tout en pesant toujours autant, a quand même du mal à entraîner l'Europe parce que l'Europe est de plus en plus divisée. Et c'est cela aussi que se joue, à mon avis, ces jours-ci.
Alix Bouyagué, oui, en effet, derrière, il y a un jeu très politique, bien évidemment.
Il y a un jeu très politique. Il y a effectivement un couple franco-allemand qui a la peine, hein, et ça c'est un peu une première, parce qu'en général quand la machine allemande rentre en jeu, elle est redoutablement efficace. Il se trouve que là, 4 jours et pas encore 4 nuits, mais on n'est pas loin du sommet de Nice au moment d'élargissement de l'Europe au pays de l'Est. Et pour la France, c'est stratégique, hein. C'est tout simplement, ce sont des additions, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de récupérer la quote-part européenne pour financer tout simplement notre propre plan de relance. On a 100 milliards sur la table. Quand on était avec ces 500 milliards de subventions, on pouvait espérer en recevoir 38. Là, on serait plutôt, si le chiffre se baissait aux alentours d'une trentaine de milliards, bah c'est déjà ça pour pouvoir alimenter notre plan de relance.
Et puis, Alix, on va faire aussi de la politique politicienne, mais il y a la présidentielle dans 2 ans. Et l'Europe, c'est le point commun aussi en France à pas mal de partis politiques qui vont aller du PS à la droite, aux Républicains, aux macronistes. Ça permet aussi à Emmanuel Macron de rassembler, d'avoir aussi un bilan au moment de la présidentielle.
Oui, ça c'est sûr que le côté chef de guerre, leader européen, ça compte aussi beaucoup. D'ailleurs, je pense que Mark Rutte, lui aussi, le Premier ministre néerlandais, il a des législatives dans 6-8 mois, donc je pense qu'on comprend pourquoi lui aussi s'active avec d'autres intérêts. Mais c'est vrai que ils l'ont annoncé avec tellement tambour et trompette, ce plan à 750 milliards, comme si c'était déjà fait, que là, effectivement, il faut que ce soit fait ce soir.
Michel Thaube.
Non, l'enjeu, effectivement, je parlais d'Angela Merkel, mais pour Emmanuel Macron, il est absolument fondamental, parce que en cas d'échec ou de semi-accord, j'ai envie de dire, de compromis qui serait trop à la baisse, honnêtement, c'est aussi l'ambition européenne d'Emmanuel Macron qui en prendrait un sérieux coup.
Ouais.
Et c'est vrai que déjà, Emmanuel Macron est fortement contesté sur plein d'aspects de sa politique depuis qu'il est au pouvoir. Sa crédibilité européenne, encore une fois, là, elle se joue aussi ces jours-ci.
Bien sûr.
Donc pour lui, il ne peut pas se permettre un échec. Et c'est aussi là-dessus, à mon avis, que jouent les Pays-Bas et les pays qui l'entourent.
Un sommet donc historique, dit Isabelle Horry, qu'on va retrouver dans un instant. Un sommet laborieux, disent certains. On en reparle dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, Pascal Clark.
Demain dans Culture Média, journaliste et politique, frontière poreuse, Laurent Geoffrin quitte Libération et lance un mouvement de gauche. Patrick de Carolis a été élu maire d'Arles, nous serons avec eux deux. Comment parle-t-on aux ados sur Arte, une web-série qui déménage, ça s'appelle Tu préfères. Et puis côté culture, découvrez avec nous le chanteur Hervé.
Europe 1, Culture Média.
À demain, 9h sur Europe 1.
Oui.
Quand est-ce qu'on arrive?
On est arrivé.
Ah,
Avec le télépéage Ulysse, gagnez du temps sur votre trajet. Jusqu'au 24 août, profitez de 12 mois d'abonnement offert au télépéage Ulysse. Offre de péage, voire conditions sur ulysse.com. Ulysse, comment roulait-on avant ? Ulysse by Vinci Autoroutes.
À tous ceux qui préparent le barbecue et à ceux qui leur disent « Ah, tu fais comme ça, toi ?» À ceux qui disent « Non, mais ça sert à rien de piquer les saucisses. » Puis à celui qui dit « Non, non, mais on est chez toi, hein, tu fais comme tu veux. Hein. » Heureusement que c'est un pote. Pendant tout l'été, Intermarché bloque le prix de la barquette de 4 côtes de porc et chinois grillés Jean Rosé à 4 euros. En plus, elles sont origine France. C'est aussi ça, être producteur et commerçant. Intermarché. Tous unis contre la vie chère. 700 grammes, soit 5,71 € le kilo, rayon boucherie libre-service jusqu'au 29 août, modalité sur intermarché.com.
La paire. Pas très envie d'entendre votre portail grincer tout l'été? Jusqu'au 3 août, la paire vous présente les portails à prix doux. Moins 20% sur tous les portails pour un été tout en douceur. Chut, écoutez. Oui, non, pardon, il n'y a plus grand-chose à entendre en fait.
La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Vous en avez assez de la couette d'Azur ou couette d'Armor, de Copa Canapé, de Balcon Carnot et d'Os Goreillé?
Avec 3000 km de carburant offert, vous allez en voir du pays et en vrai. Profitez des offres Move in France et découvrez Citroën C1 et ses 3,46 m à partir de 7 990 euros. Citroën.
Offre à particulier jusqu'au 31 juillet pour une Citroën C1 3 portes VTI 72 BVM fil 9 en stock, hors option, sous conditions de reprise et prime à la conversion déduite, prime carburant 200 euros, détails sur citroën.fr.
Il est 18h49, l'Union Européenne au cœur de ce grand journal du soir qui se poursuit avec vous Thierry Dagiral et nos grandes voix. Ce soir, Alix Bouillaguet de France 2, Michel Taube, le fondateur du site Opinion Internationale et notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry.
Et avec nos auditeurs qui nous appellent au 3921, qui prennent la parole, qui posent des questions. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Vous nous appelez de
Bonsoir
Strasbourg. Vous nous appelez de Strasbourg.
Oui.
Au cœur de l'Europe. Vous avez une question à poser.
Oui, tout à fait. Dans quelle mesure un accord à Bruxelles, qui ne manquera pas d'intervenir, va permettre de résoudre la crise sociale qui pointe à l'horizon à la rentrée et le risque d'éclatement de la zone euro.
Allez, qui vous répond ? Michel Taube ?
Bah, c'est sûr que la crise sociale en France, mais également en Europe du Sud, en Italie, en Espagne, la situation est très 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 compliquée, menace la zone euro. Mais j'ai envie de dire... on ne peut pas se permettre de la voir s'éclater, ça n'est pas possible. Et je pense que là aussi, ce qui est en train de se jouer là, c'est de nouveaux mécanismes de solidarité qui permettront à l'Europe d'être plus forte pour pouvoir résister à des tensions sur l'euro. Après, pour la deuxième partie de la question de Bertrand, qui est strasbourgeois comme moi, donc je salue Strasbourg et les Alsaciens, c'est que, qui est effectivement la capitale de l'Europe, Strasbourg, là qui a plus qu'au cœur de l'Europe, c'est la capitale de l'Europe. La crise sociale, elle se joue pas à Bruxelles ce soir. La crise sociale en France, elle se joue à
Paris, bien sûr.
Relation entre Jean Castex, le nouveau chef du gouvernement, et les partenaires sociaux. On a bien vu la CGT qui a appelé déjà le 17 septembre à des manifestations. Et Jean Castex qui a plutôt réussi son entrée, notamment en matière de dialogue social. Donc c'est plutôt là que ça va se jouer. Et l'enterrement de première classe que nous prépare le gouvernement sur les retraites et l'assurance chômage. Donc c'est là que ça se joue et non pas à Bruxelles.
Isabelle Horry est avec nous et va répondre encore, complément de réponse à Bertrand de Strasbourg, Isabelle.
Oui, alors ce que je voulais justement dire, c'est que c'est justement en partie aussi pour éviter des risques pour la zone euro. Et d'ailleurs, hier, on a vu la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, est intervenue pour dire il faut un bon accord, c'est vraiment important. Alors plutôt continuer à faire un deuxième sommet pour éviter qu'il y ait un mauvais accord. C'est signe d'à quel point c'est cet accord qui se joue ici est important sur le plan financier. Pourquoi ? Ben parce que vous avez d'un côté des pays qui vont bien, là justement, les pays du Nord... l'Allemagne. Et puis de l'autre côté, vous avez ces pays du Sud qui sont très, très, très endettés. Et donc le risque, c'est qu'il se crée un fossé tellement grand que vous aurez une zone euro complètement déséquilibrée et que les marchés financiers risquent d'attaquer les pays les plus fragiles. Et c'est pour ça, en fait, vraiment que ces mécanismes de solidarité inédits, ils sont très importants pour resserrer les liens entre les pays, notamment de la zone euro, et éviter un risque d'explosion.
Merci, merci Isabelle. Merci beaucoup Bertrand de Strasbourg de nous avoir contacté au 39 21. Alice Bouyaguet, est-ce que justement le problème de l'Europe n'est pas là, c'est que toutes les questions financières se décident à l'unanimité, en clair que Malte a le même poids que l'Allemagne, ce qui est quand même dingue.
En fait, c'est cette règle de l'unanimité qui semble vraiment super obsolète, surtout en situation d'urgence. On a vu qu'au moment du Covid, on n'a pas réussi à se trouver. Au moment des migrants, on n'a pas réussi à se trouver. Il y a eu notamment à nouveau cette règle qui a été mise en cause sur toutes les questions fiscales, hein, notamment on a vu concernant les taxes sur les géants du numérique. Donc c'est vrai que de plus en plus, et notamment des Français, poussent pour qu'on en arrive à une majorité qualifiée. Ce qui serait effectivement parfois plus souple. Alors après, le reproche qu'on pourrait faire, c'est justement de regarder de haut les petits pays en disant on peut se passer d'eux en faisant des accords avec les gros. Mais en même temps, je pense que si l'Europe veut continuer d'avancer, veut continuer d'être efficace et de jouer son rôle, il faudra à un moment se poser vraiment la question de cette règle de l'unanimité.
Michel Taubin.
Il y a un pays aussi qui pèse dans la balance, c'est la Hongrie et Orban, qui a menacé de ne pas signer cet accord si, comme l'a proposé Charles Michel, nouveau président du Conseil européen, les soutiens financiers, les accords financiers sont soumis à des conditions de respect de l'état de droit. Donc on voit bien que c'est un peu toutes les dimensions de l'Europe qui sont actuellement mises à mal. Il y a le financier, il y a la solidarité, il y a le social, mais il y a aussi l'état de droit.
Et puis,
c'est les valeurs de l'Europe. On se demande qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui, où veut aller l'Europe.
Et puis la question de la souveraineté également, Isabelle Horry. Les frugaux craignent de se voir contraints finalement d'abandonner des pans entiers de leur souveraineté sur des questions qui concernent le travail, la retraite, le démantèlement des services publics.
Non, je pense que quand même, pour la plupart, les pays vont garder le contrôle sur ça. C'est-à-dire qu'en France, on est libre de faire la réforme des retraites qu'on veut. Simplement, il y a un moment, il faut qu'on fasse une réforme des retraites. À nous d'en choisir les paramètres. Mmh. Je pense que c'est plutôt que les frugaux veulent être sûrs que les réformes, elles sont faites. Mmh. C'est-à-dire qu'après, chaque pays décide un peu ce qu'il veut faire, mais il faut que chaque pays soit fidèle à sa parole. Je voulais juste réagir, dire deux petites choses sur l'unanimité. Vous avez évidemment raison. Il y a deux problèmes. C'est que, un, pour renoncer à l'unanimité, il faudra l'unanimité, donc on n'y arrivera jamais. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que, bien sûr, ça paraît choquant et on se dit qu'il faudrait voter à la majorité qualifiée. Mais imaginez le dirigeant politique européen qui a été élu, je ne sais pas, mettons, en Belgique, à Malte, des pays plus petits que la France, et qui, dans son pays, enfin voilà, il y a eu un débat démocratique, il a été élu, et il rentrerait chez lui en disant bah désolé, j'ai été mis en minorité, c'est fini, nos intérêts vitaux vont être. C'est pas possible. Imaginez si c'était la France. C'est impossible pour nous d'imaginer qu'Emmanuel Macron aille à Bruxelles et revienne en disant bon bah voilà, j'ai été mis en minorité, donc on va appliquer la politique qu'on veut pas faire. Politiquement, alors évidemment, il y a un gros problème avec l'unanimité qui paralyse l'Europe, mais politiquement, comment faire autrement?
Ouais. Mmh. À l'instant juste, Charles Michel, le président du Conseil, vient de faire une nouvelle proposition et
une proposition de compromis sur la table. Tout à fait. Elle est envoyée aux nouvelles délégations. Donc là, maintenant, on croise les doigts et on accepte on espère qu'elles vont l'accepter.
Un accord possible. Est-ce que l'Europe va sortir affaiblie de cet épisode, selon vous, Alix Bouyaguet?
Moi, je pense que non. Je pense qu'au contraire, elle aura, même si effectivement le niveau des subventions n'était pas celui espéré par le couple franco-allemand, je pense que pour la première fois, elle va quand même contracter une dette commune, un emprunt commun. Mmh. Et ça, c'est pas rien. C'est vraiment historique pour le coup. Et c'est pour la première fois un dispositif de solidarité totale avec des pays qui sont en difficulté. Ces pays, dont nous, hein, notamment, si on n'a pas ce plan, on serait obligé d'emprunter sur le marché financier pour obtenir, pour réussir à subvenir à notre plan de relance, et certains ne pourraient pas emprunter. Donc non, moi je trouve que pour le coup, ce serait une belle victoire pour l'Europe.
Michel Taub, pour conclure.
Deux choses. C'est le premier grand rendez-vous de l'Europe depuis la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et j'ai envie de dire, elle n'a pas intérêt à se manquer, parce que déjà, elle est fortement affaiblie par la sortie de la Grande-Bretagne. Et deuxième élément, je pense que cet accord, il n'est pas encore gagné, parce que justement, il fait un peu de changer l'Europe de dimension. Et je pense que tous les États membres de l'Union européenne, ils ne sont pas forcément favorables. Mmh. Donc, il y aura certainement un accord, mais à mon avis, il y a un petite zone de risque quand même d'ici ce soir ou demain matin, parce qu'ils vont peut-être en avoir pour la nuit.
Et voilà, encore une nuit blanche pour Isabelle Horry. Merci beaucoup. Isabelle, on vous retrouve dans un instant dans le journal. Merci à vous trois, merci beaucoup.
Merci. Europe 1.